Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Saura-t-on un jour guérir la maladie d'Alzheimer ? Sans doute faut-il faire confiance à la médecine pour entrevoir une telle issue, mais force est de constater qu'on en est encore très loin. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 47 millions de personnes sont atteintes de démence dans le monde, sachant que la maladie d'Alzheimer en est la forme la plus courante. 47 millions aujourd'hui, il y en aura le triple en 2050, toujours selon l'OMS. Pourtant, des signes encourageants sont enregistrés, semble-t-il, depuis quelque temps aux États-Unis et en Europe de l'Ouest, où l'on constate une baisse notable de son incidence, c'est-à-dire une baisse du nombre de nouveaux cas, de l'ordre de 20% sur la dernière décennie. Alors, plusieurs facteurs sont avancés pour expliquer cette baisse, notamment l'hygiène de vie et le niveau d'éducation. Faire du sport, manger sainement, stimuler son cerveau contribuerait à retarder l'apparition de la maladie en réduisant les risques d'accidents cardiovasculaires. Mais retarder ne veut pas dire éradiquer. En la matière, sans doute faut-il être un peu fataliste. Nous vivons de plus en plus vieux, nous sommes donc de plus en plus vulnérables face à la perte d'autonomie. La médecine ne peut pas tout, la société doit aussi s'adapter à cette nouvelle donne. Question de moyens, mais aussi de regard sur une maladie avec laquelle il va bien falloir s'habituer à vivre. Alors Alzheimer, y a-t-il des raisons d'être optimiste ? Bien, c'est la question que nous posons à la veille de la Journée mondiale de la lutte contre la maladie d'Alzheimer et que nous allons poser ce soir notamment à Marie-Pascale Mongeau. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice générale de la communauté d'établissement Le Trait d'Union de Cailly. C'est en Seine-Maritime. Vous dirigez trois EHPAD. Je rappelle, les EHPAD, ce sont des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Parmi ces trois EHPAD, il y a le village des Aubépins qui se trouve à Maromme. Vous aurez l'occasion de nous expliquer un petit peu ce que vous avez mis en place pour essayer de faire rentrer la société finalement dans cet établissement où vous accueillez notamment un certain nombre de résidents qui sont atteints de cette maladie d'Alzheimer. Pour discuter avec vous, Bruno Dubois, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur de neurologie à l'université Pierre et Marie Curie. Vous dirigez le centre des maladies cognitives et comportementales à l'hôpital La Pitié-Salpêtrière. Vous y dirigez également l'Institut de la mémoire et de la maladie d'Alzheimer. Et puis notre troisième invité, c'est Pierre-Marie Chapon. Bonsoir.
Bonsoir.
Directeur général de VAA Conseil, qui est un cabinet spécialisé dans les domaines du vieillissement, de la santé et de l'habitat. Vous êtes le référent de la France auprès de l'OMS pour le programme Villes Amies des Aînés. Et vous venez de publier avec Bernadette Houdinet, On se trompe sur les vieux, c'est aux éditions de l'Harmattan. Alors je voudrais évidemment qu'on débute cette question par ce constat sur lequel il est sans doute un peu nécessaire de revenir, Bruno Dubois. Il y a eu un certain nombre d'articles évoquant donc cette baisse moyenne de l'incidence des démences. Et oui, mais des démences, ça ne veut pas forcément dire la baisse de l'incidence de la maladie d'Alzheimer. Peut-être déjà faut-il préciser les deux choses. C'est-à-dire, est-ce qu'on constate effectivement une baisse de nouveaux cas de démence, et est-ce que ça veut dire pour autant que c'est une baisse de nouveaux cas de maladie d'Alzheimer ?
Merci de votre question, elle est je crois très importante. Il est évident que grâce au contrôle régulier de l'hypertension artérielle et son traitement, grâce au dépistage du diabète et de son traitement, grâce au dépistage des facteurs de risque vasculaire comme l'hypercholestérolémie, les troubles des lipides et qui sont traités maintenant par des statines, grâce à toutes ces actions, et grâce aussi à la prise en charge des patients eux-mêmes et même des concitoyens qui font beaucoup plus d'activité physique, qui stimulent leur cerveau en faisant des mots croisés ou qui jouent au bridge à partir d'un certain âge, etc. Grâce à toutes ces actions, il est évident que ça a un impact sur le vieillissement cognitif. C'est naturel, c'est naturel. Et heureusement, et c'est très bien, donc on ne peut que se réjouir que nos concitoyens ont maintenant dans leur logiciel cette connaissance qu'il faut faire un certain nombre d'activités et que c'est bénéfique pour la santé en général et notamment pour le vieillissement cognitif.
Mais il va y avoir un mais.
Mais, exactement. Mais c'est pas pour autant que ça va avoir un impact sur les lésions de la maladie d'Alzheimer elle-même. Elles sont malheureusement là, elles sont aussi fréquentes, mais simplement peut-être que toutes ces actions vont retarder un peu l'expression des symptômes liés à ces lésions. Mais comme d'un autre côté, toutes ces actions ont pour effet de prolonger l'espérance de vie, in fine, le résultat n'est peut-être pas aussi convaincant.
Donc il ne faut peut-être pas mélanger l'ensemble des cas de démence avec ce qu'est la maladie d'Alzheimer. Est-ce qu'on a peut-être justement aujourd'hui tendance un petit peu, Marie-Pascale Mongeau, à mettre sous ce qualificatif d'Alzheimer des pathologies qui ne devraient pas forcément y entrer?
Oui, j'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui, c'est un grand sac dans lequel on met voilà toutes les maladies qui avec des problèmes de mémoire. Et en fait, aujourd'hui, nous, on est quand même surtout confrontés à des personnes qui vieillissent longtemps, qui ont des troubles de la mémoire, des problèmes de comportement associés, mais qui sont quelquefois liés à une vraie maladie d'Alzheimer, étiquetée, mais d'autres qui sont liés à l'avancée en âge, etc. Je crois qu'aujourd'hui, c'est important quand même de resituer que, concrètement, l'accompagnement de ces personnes peut être identique pour nous et qu'on a vraiment à faire face à quelque chose d'important. Moi, je crois que on ne s'y habitue pas clairement à ce problème de vieillissement dans la société. C'est quand même quelque chose qui nous renvoie des questionnements, qui nous fait peur dans la société, qu'on ne veut pas aborder, sauf sous l'angle peut-être de la maladie, dans une vision un peu pasteurienne, où on attend un médicament. Mais pour le reste, la question de la façon dont on accepte le vieillissement, dont on accepte que qu'on commence par avoir des rides, qu'on commence à avoir des dépendances, etc. Ça, c'est quelque chose auquel on ne s'habitue pas très bien.
Vous avez l'air d'être d'accord, Pierre-Marie Chapon. Est-ce que vous diriez qu'il y a presque une forme de surmédicalisation de l'approche de la maladie d'Alzheimer aujourd'hui?
Je pense que je vais revenir sur ce que vous disiez, qui renvoie finalement à une notion d'agisme. Parce que quelque part, avant de parler d'Alzheimer, parlons du vieillissement. Et quelque part, l'agisme, c'est le troisième type de discrimination en France après le racisme et le sexisme. Et c'est là où commence finalement ce cheminement, cette peur de l'autre, cette peur de se retrouver soi-même dans une situation difficile. Et quelque part, le fait de renvoyer une image extrêmement négative, on fait l'autruche d'une certaine manière. Et quelque part, vis-à-vis, et là on a beaucoup de travail à faire, c'est notamment vis-à-vis des aidants. Quelque part, si on leur explique ce que c'est que la maladie d'Alzheimer, peut-être qu'il peut y avoir une meilleure compréhension de leur part et leur action va être peut-être plus positive. Donc c'est à la fois les aidants directs, c'est à la fois les familles, c'est à la fois la société en général. Et quelque part, en changeant le regard, en acceptant ce regard, on peut peut-être faire un lien par rapport à quelque part les malades du sida il y a quelques années. L'image qu'on renvoyait était très très mauvaise. Aujourd'hui, on renvoie une image quelque part d'acceptation. Et si on accepte la maladie d'Alzheimer, on saura mieux l'accompagner.
Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée, Bruno Dubois, qu'il faut peut-être avoir un regard un peu plus, disons, optimiste justement sur cette maladie? Et est-ce que le fait d'annoncer, voilà, le fait que il y a une incidence qui est en baisse sur les cas de démence, ça ne participe pas aussi à contribuer à rassurer un petit peu les gens et que ça peut être aussi important dans le traitement d'une maladie comme celle d'Alzheimer?
Beaucoup de choses importantes ont été dites jusqu'à maintenant. Il est évident que la façon dont la société, l'entourage familial va se comporter par rapport aux patients va avoir un impact très important sur la qualité justement de l'évolution de la maladie. Donc ça, c'est certain. On a dit aussi qu'il y avait à côté de la maladie d'Alzheimer d'autres formes de démence, des démences vasculaires, des démences infectieuses, des démences métaboliques. Et tout cela peut avoir des causes différentes. Et donc c'est là que des facteurs de risque spécifiques vont pouvoir être modulés et modifiés, je dirais, la fréquence de ces problèmes. Sur le fond, de savoir si il faut donner un message positif et dire bon, tout ça c'est pas très grave, c'est du vieillissement. Je crois, en tant que médecin, qu'il faut quand même bien faire la part des choses. Il y a une vraie maladie d'Alzheimer qui touche parfois des sujets de 55 ans, 60 ans, et ça n'a rien à voir avec le vieillissement. C'est une maladie d'une façon générale qui est effectivement lié au vieillissement, mais qui n'est pas dû au vieillissement. Et on peut la voir aussi chez les sujets jeunes. Donc il y a une vraie maladie, une maladie qui est caractérisée sur le plan clinique par des symptômes spécifiques qui sont très, très, quand même, qui sont assez violents dans leur expression. Quand on est face à un patient, on voit des perturbations profondes de la mémoire, on voit des perturbations profondes de la capacité de reconnaissance visuelle, de reconnaissance des objets, de reconnaissance des visages, des difficultés d'orientation temporelle et spatiale. C'est quand même une réalité. à côté de ce tableau, il y a quand même des données aussi biologiques, formelles, et qui distinguent complètement ce qu'on observe chez ces patients de ce qu'on observe au cours du vieillissement normal.
Donc, est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que Bruno Debois, on essaie un peu de masquer justement tous ces aspects extrêmement lourds que porte la maladie d'Alzheimer en incitant notamment par exemple les gens à faire davantage de sport, à stimuler leur activité cérébrale en disant bah vous peut-être que vous arriverez à échapper à cette maladie si vous avez des comportements adéquats.
Je souscris à cette analyse. Je pense qu'il faut être attentif au message qu'on fait passer. Il n'est pas question de faire espérer que quand on fait un peu de marche à pied, on va empêcher la maladie d'Alzheimer. Les lésions de cette maladie n'ont rien à voir avec l'activité physique. Mais je reviens sur ce que je disais au début. Toutes ces activités dont on parle beaucoup, l'hygiène de vie, l'hygiène alimentaire, l'activité physique, la stimulation cognitive, l'interaction sociale, tout ça, ça a un impact sur le vieillissement cognitif, mais pas directement sur la maladie d'Alzheimer.
Marie-Pascale Mongeau.
Alors, nous, moi je peux vous parler concrètement de, voilà, les personnes qui sont atteintes de problèmes type Alzheimer, aujourd'hui, soit ils sont à domicile, soit ils sont en établissement, à des degrés divers de la pathologie. Concrètement, quand la maladie est là, je crois qu'il faut quand même se demander comment on les accompagne aussi. Je crois que la question de l'accompagnement de ces personnes est importante. Et là encore une fois, j'insiste sur le fait, enfin sur le constat qu'on fait d'une forme de ségrégation. Enfin, si on regarde la majorité des EHPAD, des établissements qui accueillent des personnes âgées dépendantes, très souvent, où est-ce qu'on les retrouve ? On les retrouve en bout de ville, en périphérie, sont des lieux fermés où on a laissé au compte propre des soignants, je les mets entre guillemets, des professionnels, on leur confie cette lourde tâche d'accompagner toutes ces problématiques que vous évoquez, qui sont difficiles, qui renvoient des choses difficiles et lourdes, et on demande aux seuls soignants de gérer toute cette question. Et après, on s'étonne que les personnels vont mal.
Vous avez mis en place une autre approche justement au village des Aubépins. C'est peut-être le moment justement de nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste.
Oui, justement, je pense qu'effectivement, on ne peut pas confier ça qu'à une catégorie de professionnels. Je crois que ça concerne toute la population, toute la société. Je crois qu'à un moment donné, ces personnes où justement il y a des troubles du lien, on ne peut pas considérer qu'il faut les isoler. Nous, on a construit un établissement qui est vraiment resté en cœur de ville, vraiment, c'est plutôt la ville qui s'est reconstruite à un moment donné autour de la maison de retraite, il y a tout un historique. Donc on est en face de l'église, de l'espace culturel, de l'école de musique, à côté d'une école, etc. Ce qui fait que déjà, première chose, même ces personnes qui ont des troubles de la communication importants, des troubles de la mémoire, continuent de rester en vibration avec la ville, avec les mouvements de la ville, et ce sont autant de stimuli qui permettent de conserver une activité. Et puis on a poussé beaucoup plus loin la démarche en faisant rentrer la ville dans l'établissement. On rentre dans l'établissement, c'est une place de village avec des commerces qui sont ouverts pour nos résidents, pour les familles, mais aussi pour les gens de la ville. Et l'idée au travers de ça, c'est de commencer, recréer des liens entre les générations, parce qu'aujourd'hui, on s'en est déshabitué. Je crois que ça n'est plus naturel. Je crois qu'on est obligé pratiquement de recréer des espaces, des lieux pour accompagner la société dans ces relations, parce que ça fait peur. Et en fait, on constate, par exemple, déjà, on n'a pas des coiffeurs spécial vieux, comme je dis toujours, parce que moi, ça me choque beaucoup que quand on est en établissement, on doive aller chez un coiffeur où il n'y a que des vieux. Non, chez ce coiffeur, il y a des gens de la ville, il y a du personnel qui se fait coiffer, et puis il y a des personnes Alzheimer. Et en fait, ça se passe.
Camarie Chapon, je sais que vous avez pas mal observé ce qui peut se passer, ce qui peut s'expérimenter aussi à l'étranger. Est-ce que l'exemple que vient de prendre Marie-Pascale Mongeau vous paraît justement s'inspirer d'autres expérimentations qui sont menées ailleurs ? Et est-ce qu'on est aujourd'hui dans le début d'une forme de changement de l'approche de la société française par rapport à la maladie d'Alzheimer ?
Ce qui a été dit est essentiel et basé sur un véritable projet de territoire. territoire. Et on ne peut pas opposer l'EHPAD et avec son environnement. Et c'est pourtant ce qu'on a fait pendant des années. C'est-à-dire que là, on pourrait revenir sur ce qui se faisait encore au 19e siècle, où finalement, les hospices qui étaient au centre-ville, on les a mis en périphérie parce qu'on voulait cacher quelque part cette peur qu'on avait par rapport à la maladie et par rapport à toutes ces problématiques. Donc on a déjà ce projet de ville qui est essentiel et qui a nécessité beaucoup de temps, j'imagine, pour le construire. C'est-à-dire qu'on ne construit pas avec une zone d'aménagement concertée en plein milieu de nulle part un véritable projet de vie. C'est quelque chose qui se construit avec la population. Et là, l'exemple est tout à fait intéressant et doit bien fonctionner, justement, parce que derrière, on a des humains. Avant d'avoir du bâti, on a des humains. Alors, en ce qui concerne d'autres projets, effectivement, l'idée aujourd'hui qu'on a, c'est d'avoir un peu cette notion du parcours de vie. C'est-à-dire que, quelque part, de ne pas faire de différence entre le domicile, d'avoir un accompagnement jusqu'à l'établissement le médicalisé et sans que ce soit en rupture par rapport à la personne. Donc on a des exemples en Hollande notamment qui sont très intéressants. On parlera tout à l'heure de la déclinaison française qui peut se faire dans les Landes avec le village Alzheimer. Mais effectivement, ce qui est intéressant, c'est d'imaginer d'avoir des commerces dans lesquels les gens peuvent se rencontrer, manger au restaurant tout à fait normalement, mais par contre que les gens qui viennent dans ces commerces connaissent la réalité aussi de ces patients, et le fait de le connaître font que les choses se passent beaucoup mieux.
C'est une très belle histoire d'accompagnement. Chaque jour, Petra, auxiliaire de vie, aide les pensionnaires de l'une des petites maisons du village d'Alzheimer d'Amsterdam à retrouver leur repère.
Il faut boire.
Dans cette villa, elles sont sept à souffrir ensemble de cette même forme d'amnésie. De tous milieux, de toutes origines sociales, les 152 pensionnaires, hommes et femmes confondus, sont répartis par maison selon leurs affinités, après que leur famille ait rempli un questionnaire très complet. Plus de 15 000 mètres carrés dédiés à ces malades d'Alzheimer, tout ici a été conçu et pensé en fonction de leur maladie et de leur confort.
La maladie d'Alzheimer est une maladie sans rémission. Mais si l'on compare notre centre à d'autres lieux de vie, on s'aperçoit que chez nous, les gens vivent plus longtemps et qu'ils consomment moins de tranquillisants.
Voilà, extrait d'un reportage de septembre 2015 sur France 3 dans un village Alzheimer, donc aux Pays-Bas, avec une expérimentation qui va bientôt arriver en France à Dax. Vous allez nous en parler dans un instant, Pierre-Marie Chapon. Mais Bruno Dubois, je voulais savoir si, du point de vue médical, l'environnement dans lequel évolue le malade a une influence positive ou négative sur l'évolution de la maladie. Est-ce que ça, on le constate du point de vue de la médecine?
Ah oui, quand on prend en charge les patients... Sur la durée de l'évolution, il y a des comportements qui sont très différents de la part des aidants, et que ça a un impact évident sur l'évolution. Je me rappelle avoir écouté Madame Roumanoff, je peux dire son nom puisqu'elle a même écrit un livre sur la façon qu'elle a eue de se comporter avec son mari qui souffrait de cette maladie, et c'était très très intéressant parce qu'elle tournait tout de façon positive, c'est-à-dire que quand il oubliait, j'imagine, je ne me rappelle pas dans le détail, mais quand il cherchait ses lunettes, eh bien c'était une partie de cache-cache. Enfin, tout était positivé. Et donc, ce n'était jamais un sujet de conflit ou d'agressivité. Donc, elle avait l'air de dire que c'était, ça s'était passé de façon très agréable, finalement, d'après ce que j'ai compris.
Mais plus un malade, on va dire, est sociabilisé, plus on peut retarder l'aggravation des symptômes.
Oui, parce que si vous voulez, par exemple, ces patients sont confrontés en permanence, je dirais, à l'échec, les difficultés dans la vie sociale, si vous voulez, de témoigner de quelque chose. Ils se trompent, par exemple, ils ne vont pas trouver le bon mot, ou quand ils vont dire « mais c'était avant-hier que j'ai... Ben, » Non, c'était pas avant-hier, c'était il y a une semaine. Donc en permanence, ils sont inhibés, et parce qu'ils se rendent compte que quand ils disent quelque chose, il y a toujours quelqu'un qui les contre. Donc petit à petit, ce qu'ils font, c'est qu'ils se renferment. Il y a quoi ça sert, à chaque fois que j'interviens, je me trompe. Donc petit à petit, ils se renferment. Alors si au contraire, on n'insiste pas sur le fait qu'à l'importance... C'était pas il y a deux jours, c'était il y a pas une semaine, c'est il y a deux jours, ça n'a aucune importance. Et si on a cette attitude d'accompagnement, et au contraire de ne pas essayer à tout prix de les convaincre qu'ils se sont trompés, à ce moment-là, ils vont continuer à produire, et donc ils vont participer à la vie.
Il faut essayer de dédramatiser un peu les effets de la maladie, Marie-Pascale Mongeau, mais ça demande une vraie formation. C'est-à-dire, il y a des soignants, il y a des personnes qui sont là pour ça, mais quand on est dans l'entourage, c'est pas évident non plus justement d'avoir cette approche, peut-être avec un peu de second degré aussi par rapport à certaines manifestations de la maladie d'Alzheimer.
Oui, alors il y a la formation des personnels, des professionnels qui travaillent. C'est une formation qui doit être tout à fait spécifique, hein, qui comme le disait le docteur, doit aller dans le soutien de la personne, ne pas la contredire, essayer de voir où elle en est dans une forte empathie pour ne pas la démobiliser là où elle en est. Et ça, aujourd'hui les personnels sont formés, mais ça demande du temps. Il faut aussi beaucoup de temps pour les personnels. Pouvoir reparler des situations difficiles, ce que aujourd'hui malheureusement je trouve qu'on n'a pas suffisamment de temps dans nos établissements ou même dans les services qui œuvrent au domicile. Je crois qu'il faut en parler des politiques publiques aujourd'hui qui ne sont peut-être pas suffisantes. Moi je trouve qu'il y a eu beaucoup d'évolutions, mais il reste énormément de travail à mener. On y voit un peu plus clair dans cet accompagnement aujourd'hui, mais il faut encore accompagner encore plus, aider encore plus les professionnels, leur donner les moyens. Je pense qu'il y a des questions aussi, il faut le dire, sur ces situations humaines, où quelquefois, on n'a pas de réponse, on n'a pas de réponse aux questions. Je pense qu'il faut des lieux de débat, des comités d'éthique, parce qu'il y a des moments où personne n'a vraiment la solution, entre la famille, les personnels, etc.
Quand vous dites de comité d'éthique, ça veut dire quoi? Par exemple, on peut parfois être tenté de vouloir atténuer les symptômes, je sais pas moi, en donnant des médicaments par rapport aux patients, pour les calmer, entre guillemets.
Par exemple, une personne qui a des troubles importants, qui a des troubles du comportement très, très importants, qui semble vraiment très en souffrance à un moment donné, qui dérange aussi beaucoup son entourage, son aidant ou les autres personnes d'une résidence. Cette personne, à un moment donné, est-ce qu'on donne des médicaments qui vont calmer, qui vont l'apaiser, mais finalement cette personne, on va la retrouver un peu plus alitée, au fauteuil. Ça pose de vraies questions. Moi, je crois qu'aujourd'hui, personne n'a véritablement de réponse. En général, dans ces situations, on se met autour de la table avec les familles, avec le personnel, on débat, on discute, et à un moment donné, les solutions, les réponses, les actions sortent. Mais c'est toujours une réponse. Qui est concerté.
Bruno Dubois, sur la question des médicaments, est-ce qu'il y a un moment où donner des médicaments est utile et, à contrario, est-ce qu'il y a des moments où ça a plutôt l'inconvénient d'aggraver les symptômes de la maladie?
C'est une question très très difficile et il faut répondre cas par cas, avec beaucoup de tact et d'expérience clinique, parce que laisser un sujet anxieux, agité, confus et qui est très 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 agressif parce qu'il ne comprend pas ce qui se passe, il a plus d'emprise sur la réalité, le laisser dans cet état d'agitation anxieuse, c'est pas forcément une bonne chose. Ça entretient justement la déshydratation, l'agressivité, la réaction des personnels contre. Si au contraire vous l'apaisez à ce moment-là, eh bien les choses vont s'étendre et pour lui ça va être bénéfique et pour l'entourage aussi. Mais il faut pas abuser aussi de ces médicaments parce qu'on sait que sur la durée ils vont avoir un effet néfaste. Donc tout ça c'est très très compliqué. La prise en charge thérapeutique de ces patients est très complexe.
La prise en charge thérapeutique, en tout cas aujourd'hui, elle ne permet pas de stopper l'avancée de la maladie, voire de l'éradiquer. On en est encore très loin.
Oui, alors là on parlait justement de ces médicaments symptomatiques. Aujourd'hui on n'a que des médicaments symptomatiques qui agissent comme ça sur les troubles du comportement, sur l'anxiété, sur éventuellement la dépression, sur l'agitation, les troubles du comportement, voire même parfois un peu sur la mémoire. On a quand même des médicaments qui semblent être un peu actifs aussi. Mais on n'a pas, vous avez raison, de médicaments curatifs. Mais enfin, le titre de votre émission aujourd'hui, c'est...
Y a-t-il des raisons d'être trop optimiste?
Voilà. Eh bien écoutez, il y en a quand même, parce qu'il y a des travaux qui sont en cours et qui montrent que nous avons quand même des médicaments qui ont un impact sur les lésions de la maladie, donc ce qu'on appelle des disease modifiers, c'est-à-dire qu'ils interviennent sur le processus pathologique lui-même. Et donc maintenant, il faut comprendre pourquoi on n'a pas encore d'effet sur les symptômes, mais une des raisons de cette absence d'effet, c'est peut-être que ces médicaments sont essayés chez des patients un peu trop avancés dans leur maladie, à un moment où les lésions sont telles qu'on ne peut pas espérer avoir, un impact clinique, mais On est maintenant en train d'essayer ces médicaments chez des patients à des stades beaucoup plus précoces, avec des résultats qui semblent être intéressants.
Alors, on va revenir justement dans un instant sur la précocité du diagnostic, mais je voudrais qu'on évoque cette expérimentation. S'agit-il d'ailleurs véritablement d'une expérimentation qui va être menée à Dax, Pierre-Marie Chapon, oui, avec un village Alzheimer? Si c'est à vous que je m'adresse, c'est parce que vous avez fait partie du comité de réflexion, voilà, pour la mise en place de ce village. Alors, en quoi ça consiste? Est-ce que c'est assez proche de ce qu'on a entendu il y a un instant sur, oui, ce qui, alors, est mené aux Pays-Bas?
Je vais revenir peut-être juste pour faire le lien par rapport à ce qui a été dit. On parlait d'approche de médicaments et c'est évidemment un élément essentiel. Il y a aussi tout ce qui est autour du médicament et ça va faire le lien justement avec les Landes et le village Alzheimer à Dax. Quelque part, se poser aussi la question, comment est le personnel, parce que c'est aussi un élément. Est-ce que le personnel porte une blouse ou est-ce que le personnel est formé pour être plus à l'écoute des patients? Est-ce que derrière on peut pas avoir aussi d'autres pratiques non médicamenteuses, parce que ça c'est des choses qui vont être expérimentées sur Dax. Alors on a des choses qui existent. Certains sont plus ou moins connus comme Humanitude ou d'autres choses qui peuvent éventuellement compléter les approches, mais c'est aussi une manière d'appréhender finalement le maladie d'Alzheimer dans son environnement, avec à la fois des médicaments et en même temps toute l'approche humaine, tout ce qu'on peut faire autour du médicament et qui peut, d'une certaine manière, renforcer aussi le rôle du médicament.
Alors, je crois que le village d'Alzheimer à Dax, il est censé être en service en 2018.
Oui, normalement.
Je m'y rends.
Oui.
Ça ressemble à quoi? C'est-à-dire, alors, je me balade dans le village et je vois quoi? Je vois qui?
Alors, quand vous rentrerez dans le village, alors, bon, nous, on a travaillé sur les aspects pré-programmatiques. Donc là, actuellement, il y a un concours qui a lieu pour désigner les équipes lauréates. Vous, logiquement, rentrerez sur une place de village où vous aurez un restaurant, quelques commerces qui seront ouverts sur l'extérieur, et puis derrière cette place de village, qui peut-être ressemblera d'ailleurs à un village landais. Mais par contre, l'idée n'est pas de faire un pastiche, un village pastiche. Donc, l'ensemble ensuite des maisonnées, des petits villages, des petits hameaux seront peut-être plus modernes. Mais bon, on verra effectivement en fonction des résultats par rapport au projet. Et donc, l'idée, c'est que chaque petit quartier autour de cette place de village rappelle certaines parties des Landes, la partie un petit peu plus proche de la côte, la partie plus au milieu de la forêt, donc pour rappeler aux personnes qui ont vécu dans ces territoires quelque part qu'ils se sentent un petit peu chez eux, des petites maisons avec des chambres, des petites pièces communes, maîtresse de maison. Donc là, on rejoint complètement ce qui se fait en Hollande, et puis la possibilité pour ces personnes, en fonction, parce qu'on aura différents stades effectivement d'avancer dans la maladie, des personnes de pouvoir se déplacer librement. Donc nous, on avait évoqué, alors je ne sais pas si c'est ça qui va être retenu, mais on avait évoqué des systèmes de un peu technique, mais RFID, en fait, c'est un petit peu ce qu'on utilise, des puces, voilà, qui permettent. Alors l'idée n'est pas, faut pas que demain on titre, on va pucer les vieux demain dans les Landes, c'est pas du tout ça, mais c'est simplement que naturellement certaines ouvertures se soient facilitées et d'autres non, de façon
pour qu'il y ait un certain niveau d'autonomie. Il faut, exactement, aussi qu'il y ait la possibilité de contrôler les risques liés à cette autonomie.
L'idée, c'est de donner l'autonomie, de permettre une diverse liberté, et notamment la liberté de pouvoir aussi se déplacer. De quelque part, on parle les personnes peuvent faire des tours, peuvent se promener, mais sans que ce soit un risque pour elles. Et ça, juste où est-ce qu'on trouve la limite? C'est là où on va utiliser des choses très intéressantes, comme par exemple des couleurs. C'est-à-dire que sur l'entrée du village, nous, on avait préconisé qu'on soit sur quelque chose de plutôt sombre pour éviter, en fait, parce que le sombre, c'est quelque chose qui fait peur aux malades d'Alzheimer et qu'on tendance à justement éviter pour aller plutôt sur des zones un petit peu plus lumineuses. Enfin, c'est un peu raccourci de le dire comme ça, mais c'est donc on va jouer sur les couleurs, on va jouer sur les lumières et surtout on va jouer aussi par rapport au paysage pour pas que l'élément semble clôturé, parce que ça ferait vraiment quelque chose de difficile. Eh bien, on va jouer sur des ouvertures de paysage, sur des haies, sur des choses de ce type-là, sans qu'on soit sur un paysage trop ouvert, parce qu'il faut pas non plus qu'on soit sur un paysage trop ouvert. Donc on essaie de trouver un équilibre qui soit un équilibre réconfortant, sécurisant, mais en même temps qui permette des libertés et des rencontres, en tout cas sur la place du village. L'objectif, c'est vraiment que la population locale puisse rencontrer des personnes.
Alors ça ressemble un peu en plus grand format, on va dire, Marie-Pascale Mongeau, à ce qu'est le village des Aubépins dont vous vous occupez aujourd'hui en Seine-Maritime. On parle finalement assez peu de médecine et de présence médicale dans ces approches-là. Est-ce que c'est pas une façon d'avoir une approche fataliste, mais peut-être est-ce la bonne manière d'aborder cette question de la maladie d'Alzheimer, de dire voilà, de toute manière, la société vieillit, donc nous sommes potentiellement tous amenés à contracter cette maladie. Et donc, bah, en attendant que la médecine progresse, il faut bien qu'on fasse avec.
Je suis pas sûre que c'est une posture fataliste. Par exemple, quand je vous décris cette maison, ce village, ça ne signifie pas que la place médicale n'y est pas. Il y a les gens voient leur médecin, le personnel travaille en civil. Pour autant, il y a toute la place des soignantes qui est importante. Mais encore une fois, nous on considère que on n'est pas malade 24 heures sur 24. On est d'abord des personnes, des humains. Et je pense que, d'abord, ce sont des résidents chez nous qui ont des maladies, Alzheimer ou autres. Et ça, c'est pris en compte, mais on essaye vraiment de continuer de les regarder comme des personnes humaines. Et donc, tout le mode de pensée, d'organisation, voilà, on mange au restaurant, le vocabulaire est très important. Je crois que, on habite une rue, on habite un appartement et pas une chambre. Vous voyez, je crois que c'est pas parce qu'on a on est malade, qu'on doit on n'habite pas un hôpital de toute façon. À partir du moment où on traite les gens de patients, je pense qu'on les considère comme des malades. Donc voilà, moi je pense qu'on a tous envie qu'il y ait des thérapeutiques qui évoluent, mais ça n'empêche que de toute façon on aura toujours des gens très âgés, je pense, je suppose, et que là, comme pour les personnes handicapées, comme pour les personnes, vous parliez des malades du sida, c'est quand même à la société de les inclure. Et je crois qu'il y a une question de pacte, un pacte social de solidarité à remettre en place et que tous on doit réintégrer. Et je crois qu'aujourd'hui, ça n'est plus naturel. Je crois que la place des âgés, ce pacte est un peu rompu. Et je crois qu'on doit régénérer des rencontres.
Qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'initiative, Bruno Dubois? Et comment on gère ce qui pourrait apparaître comme une forme de contradiction, c'est-à-dire à la fois inclure les malades tout en cherchant à les guérir?
Je pense que c'est une initiative qui est intéressante, mais qu'il faut voir encore comme une initiative un peu expérimentale. Une centaine de sujets qui vont, entre guillemets, bénéficier de cela. Un investissement quand même important pour la ville, pour le conseil régional, et pour les patients, pour la collectivité. Et à l'arrivée, une évaluation. Et moi, j'étais très, très impliqué dans la réflexion sur l'évaluation. Je crois qu'il faut évaluer ce genre de structure. Il ne faut pas partir comme ça en se disant c'est merveilleux. Il faut voir, il faut évaluer. Donc on va avoir des paramètres d'évaluation. On va voir si sur l'évolution on a des outcomes, comme on dit, des outcomes, c'est-à-dire des éléments d'évaluation d'efficacité sur, par exemple, la durée que les patients mettent à rentrer à tel niveau de sévérité, comme ça. Donc on va pouvoir vraiment voir s'il y a un impact sur l'évolution elle-même de la maladie. C'est à partir de là qu'on pourra tirer des conclusions.
Puisque vous parlez d'évaluation, il y a un certain nombre de plans Alzheimer qui ont existé. Il y en a eu un, c'était 2008-2014, qui a été retraduit en plan maladie neurodégénérative depuis 2014, qui court jusqu'en 2019. C'est-à-dire il inclut aussi d'autres maladies que celles d'Alzheimer. Ces plans-là, ils ont servi à quoi ?
Ils ont eu un impact considérable. Ça a été le premier plan. Là. Donc, enfin, il y a eu plusieurs plans. On est au quatrième. Mais c'est vrai que la France a été, grâce à ces plans, un peu dans la pointe de la prise en charge de ces maladies au niveau international, c'est sûr. Et qu'il y a eu, au-delà d'une prise de conscience de la réalité des maladies, il y a eu des structures qui ont été mises en place qui permettent d'accueillir ces patients, qui permettent de trouver des solutions. Il y a eu des aides à domicile, il y a eu énormément de moyens qui ont été, alors bien sûr insuffisants, compte tenu du nombre considérable de patients, mais il y a eu quand même là un mouvement très positif.
Marie-Pascale Mongeau.
Oui, je voulais réagir par rapport à ce que disait M. Dubois, c'est que effectivement la prétention de ce genre d'initiative, qui à mon sens est insuffisante, n'est pas de guérir la maladie d'Alzheimer, mais de mieux l'accompagner. Voilà, je crois que ça c'est important de le dire et de faire en sorte que les gens vivent mieux et leurs proches aussi. Moi, je peux vous assurer que les familles qui sortent de cet endroit sortent droites, et je peux vous assurer que ça, voilà, il n'y a pas besoin, enfin je pense qu'il y a tout intérêt à faire des études, mais je peux comparer avec d'autres lieux où effectivement ils sortent culpabilisés, dans la honte, etc. Quand on peut manger avec son proche avec son proche qui atteint de la maladie d'Alzheimer dans un restaurant, dans un vrai restaurant, et qu'à côté il n'y a pas que des gens âgés, que des gens malades et que des professionnels, mais qu'il y a aussi des gens de la ville, je pense qu'on ça restaure énormément.
Pouvoir manger avec son proche qui est atteint de la maladie d'Alzheimer, ça peut aussi vouloir dire pouvoir manger dans un établissement qui prend en compte justement les symptômes de cette maladie. Il y a eu on a trouvé ça en préparant l'émission, un bal d'été à Agondange en Moselle, c'était en juin dernier, organisé par France Alzheimer. C'est un repas finger food, c'est-à-dire on mange avec les doigts, donc il n'y a pas de couvert, il n'y a pas de sauce. C'est important aussi que voilà, quand on va manger avec des proches qui ont cette maladie-là, on se met à leur niveau, disons.
Alors, je crois que là, ce genre d'action ce genre d'action est très intéressante parce qu'elle permet aux personnes, aux kidames du coin, de vivre cette aventure, et puis aussi de dédramatiser le fait qu'après tout, même adulte, on peut manger avec les doigts, et puis qu'il y a un intérêt aussi à manger avec les doigts, etc. D'ailleurs, les frites, ça se mange quand même avec les doigts. Donc, au quotidien, on peut manger avec des couverts. Et puis à côté, accepter, je pense que c'est plutôt l'acceptation que la personne en face peut-être mange avec les doigts. Mais dans notre brasserie qui s'appelle Chez Maman, au rez-de-chaussée, voilà, il y a des personnes qui peuvent manger avec les doigts, et à côté, il peut y avoir quelqu'un qui est en train de déjeuner, qui travaille dans l'entreprise à côté, qui aujourd'hui accepte cette situation. Voilà, donc je crois que notre prétention n'est pas de guérir, je crois que ça c'est, mais de mieux les accompagner. Et puis sur la question du coût, juste, je pense qu'il ne coûte pas plus cher de créer un établissement en cœur de ville, sauf le prix du terrain peut-être, mais le coût n'est pas plus important si on le construit en cœur de ville que si on le construit en bout de ville. Et je pense que les économies, là c'est la financière qui parle, sont vite retrouvées dans la mesure où on n'aura pas besoin de transport pour aller accompagner les gens en ville, etc.
Pierre-Marie Chapon, on a parlé des plans Alzheimer. Il y a une loi qui est entrée en vigueur, il ne reste plus beaucoup de temps malheureusement, mais au 1er janvier dernier, la loi d'adaptation de la société au vieillissement. Vous étiez venu d'ailleurs en discuter il y a 2 ans environ de cela. Est-ce que cette loi, elle, apporte justement des réponses, si ce n'est satisfaisantes, mais en tout cas des avancées par rapport à ces questions-là, notamment en termes d'adaptation du logement, puisque vous travaillez sur ces questions-là?
Alors, sur la loi, on est, en deux mots, plus sur de la prévention, c'est-à-dire qu'il devait y avoir 2 volets, mais on n'a eu qu'un volet, donc on verra la prochaine mandature ce que ça va donner. Et donc effectivement, l'idée de cette loi, c'est d'adapter la société au vieillissement dans son ensemble. Donc c'est effectivement travailler, vous avez complètement raison, par rapport à la proximité des établissements, par rapport au transport, par rapport à tous ces sujets. Donc ça, c'est des sujets qui ont été traités, mais à mon avis, insuffisamment. On a la question de l'adaptation des logements, parce qu'on a toute une partie de la population qui peut vivre dans des logements, mais on n'a que 6% aujourd'hui du parc de logements qui est adapté aux besoins de personnes âgées fragiles, avec des risques dans beaucoup de logements. Donc il y a un gros travail collectif à faire à ce niveau-là. On a tout un pan sur ce qu'on appelle les résidences autonomie, donc là on est avant évidemment tous ces sujets, mais toujours avec cette notion de prévention. Le seul problème de cette loi, c'est les financements qui sont très insuffisants, donc par rapport à ça, la grande difficulté qu'on a, c'est que tant qu'on ne comprendra pas qu'il faut investir à un moment, quel que soit pour différents types de populations vieillissantes, on sera sur du saupoudrage et on n'arrivera pas à avoir une politique cohérente qui finalement est utile économiquement pour l'ensemble de la population. C'est un petit peu ce qu'on dit dans l'ouvrage. Donc je pense qu'il serait temps qu'au niveau de la présidentielle, on ait enfin une vraie prise en compte de ces sujets et qu'on puisse enfin s'occuper de nos aînés.
Alors, on va suggérer au candidat à la présidentielle de lire votre livre. Pierre-Barry Chapon se trompe sur les vieux, que vous publiez avec Bernadette Toudinet à l'Harmattan. On peut aussi leur suggérer de réécouter l'émission. C'est assez simple, on peut le faire aussi longtemps qu'on le souhaite. On peut la télécharger pendant un an. Donc d'ici là, la présidentielle sera passée. Merci en tout cas beaucoup à tous les trois, Bruno Dubois et Marie-Pascale Mongeau et donc Pierre-Marie Chapon d'avoir participé à cette discussion à la veille de la 23e journée mondiale de lutte contre la maladie d'Alzheimer. Un grand merci à toute l'équipe, Céline Leclerc, Mélanie Chalandon, Fanny Richet, Cyril Baer, Isolde Sicard, émission réalisée par Jean-Christophe Francis avec à la prise de son Bruno Gagnère Fontanille. Demain, faut-il un régime d'exception pour les détenus radicalisés ? Ce sera la question à partir de 18h20.